Chapitre 29. Chartwell était la propriété de campagne de Churchill près de Westerham, dans le Kent, à environ 40 kilomètres de Londres. Je passais chercher mes nouveaux vêtements chez le tailleur à midi, je les essayais et j'écoutais le verdict favorable du couturier. Gardant sur moi une des chemises blanches qu'il m'avait choisie et le costume de lin beige qu'il m'avait confectionné et qu'il a sorti d'une discrète cravate vert et bordeaux, je m'engouffrais dans la voiture envoyée par le ministère, quel ministère je n'en avais pas la moindre idée, pour aller prendre le train de 13h15. Une autre voiture avec chauffeur m'attendait à la gare de Westerham et m'emmena jusqu'à Chartwell, à quelques kilomètres de là. Je m'attendais à un gigantesque domaine semblable à celui de Lady Bromley ou à celui auquel Richard Davis Deacon avait renoncé après la guerre. Mais Chartwell ressemblait davantage à une confortable maison de campagne du Massachusetts. J'appris beaucoup plus tard que, loin d'avoir appartenu à la famille depuis une dizaine de générations, Chartwell, une maison de briques enlaidie par des extensions et un affreux aménagement paysager dans les années 1800, avait été acheté assez récemment et plus ou moins rebâti par les ouvriers engagés par Churchill. Et par Churchill lui-même. Un domestique me conduisit à une chambre et me laissa le temps de me rafraîchir, puis un autre vint m'avertir que M. Churchill désirait me voir et demandait si le moment était propice. Je répondis par l'affirmative. Au lieu de m'emmener dans quelque grande bibliothèque comme je m'y étais attendu, le vieux domestique, qui, lorsque je m'enquis de son nom, répondit simplement « Mason, monsieur », m'escorta dehors sur le côté de la maison, où Winston Churchill, coiffé d'un feutre blanc et vêtu d'un bleu de travail maculé de mortier, montait un mur. « Ah, bienvenue, monsieur Perry !» s'écria-t-il, aplanissant le mortier à la truelle avant de poser une nouvelle brique. C'était un long mur. « Je passe 10 heures par jour dans mon bureau, à Londres, mais mon véritable travail, c'est ça !» poursuivit-il. Je m'étais déjà rendu compte que le monologue était son mode de conversation favori. « Ça, et l'écriture d'ouvrages historiques. J'ai pris soin de contacter le syndicat des maçons avant de m'attaquer à mon premier mur. Ils m'ont fait membre honoraire. Mais je ne me repose pas sur mes lauriers. Cette semaine, j'ai écrit 2000 mots et posé 200 briques. » Il lâcha sa truelle et, me prenant soudain par le coude, me guida vers l'arrière de la maison. « Je l'appelle le cochon douillet, » dit Churchill. « Quoi donc, monsieur le chancelier ?»« Eh bien, la maison, évidemment, Chartwell. Et puisque je vous appelle monsieur Perry, appelez-moi monsieur Churchill. Oubliez le chancelier. » Nous nous arrêtâmes sur une terrasse au milieu d'un jardin à la française, mais ce n'était pas lui que Churchill m'avait amené voir. « Voici la raison pour laquelle j'ai acheté la propriété il y a 3 ans, » dit-il. Il parlait de la vue de cette colline. C'était, et cela reste, le plus beau et verdoyant panorama campagnard qu'il m'ait été donné d'admirer. Il y avait des forêts de hêtres, de châtaigniers et de chênes au loin, d'innombrables prairies et d'immenses pentes herbeuses. Le cochon douillet se trouve au milieu de 32 hectares de terre. Mais c'est la vue de la combe du Weld qui m'a convaincu d'acheter la propriété, bien que Clémentine l'ait jugée trop chère pour moi. Non, pour nous. Et c'est vrai qu'avec les travaux, elle l'a été.
C'est très beau, dis-je en mesurant à quel point ce terme était insuffisant.
Pas aussi beau que l'Everest, je suppose, répondit le petit homme corpulent. Ses yeux brillants me regardaient attentivement.
C'est une beauté différente, monsieur Churchill.
Là-bas, il n'y a que de la roche, de la glace et une lumière impitoyable. Presque tout, même l'air, est si froid qu'il en devient tranchant. Il n'y a pas la moindre verdure au-dessus du camp de base, pas même de lichen. Rien de vivant, à part les alpinistes et quelques corbeaux. Pas d'arbres, pas de feuilles, pas d'herbes. Presque rien de doux, que du roc, de la glace, de la neige et le ciel. Ici, tout est infiniment plus délicat, plus humain. Après m'avoir écouté attentivement, Churchill hocha la tête.
« Je ferais bien de me remettre au travail.
Quand j'aurai fini ce mur pour ce qui sera la terrasse de la chambre de Clémentine, je devrai construire un autre barrage. » Il agita sa main grassouillette vers la gauche. « C'est moi qui ai creusé ces étangs. J'ai toujours aimé regarder l'eau et les choses qui se plaisent à y vivre. » Les étangs étaient magnifiques et semblaient naturels. « Mettez-vous à l'aise, comme vous dites, vous, les Yankees, » reprit Churchill. « Si vous avez faim, prévenez Mason ou Matthews. Ils demanderont à la cuisinière de vous préparer un sandwich. Vous trouverez des alcools dans le salon, et il y a du bon whisky, du scotch, comme je crois vous l'appelez de votre côté de l'étang, dans votre suite. Il y a aussi des livres dans votre chambre, mais sentez-vous libre d'en emprunter dans la bibliothèque. Nous prendrons un Xérès ou un whisky à 18h, et le dîner sera servi à 19h30. De bonne heure, parce que un de nos invités a fait apporter un projecteur et un film qu'il veut nous montrer. Ou plutôt qu'il veut montrer aux enfants. Je pense que vous trouverez tous nos convives amusants, mais surtout trois en particulier. À plus tard, Monsieur Perry. » Le premier invité que je rencontrai fut T.E. Lawrence, celui que le journaliste américain Lowell Thomas surnomma Lawrence d'Arabie pendant et après la guerre, qui descendait l'escalier en même temps que moi pour rejoindre le salon. Il portait la panoplie complète du prince arabe, jusqu'au poignard à la lame courbe et aux manches ornées de pierres passées à sa ceinture. « Idiot, je sais », dit-il quand nous nous fûmes présentés et serrés la main. « Mais les enfants adorent. » Nous fûmes bientôt rejoints par un homme plus âgé que Churchill appelait prof. C'était le professeur F. A. Lindemann. Plus tard, Lawrence me glissa qu'en 1916, quand d'innombrables pilotes de la RAF périssaient, faute de pouvoir redresser leur fragile coucou en papier et en bois à la suite d'un décrochage, le professeur Lindemann avait mis au point, grâce à ses calculs mathématiques, une manœuvre qui, d'après lui, permettrait de reprendre le contrôle de tout avion tombant en vrille. Quand les gradés de la RAF et les pilotes avaient décrété que la manœuvre ne fonctionnerait pas, me raconta Lawrence, qui portait toujours sa coiffe et son bandeau de coton blanc plutôt efféminé, Lindemann avait appris à piloter. Prenant les commandes d'un SPAD sans parachute, il l'avait placé dans une dangereuse position de décrochage et l'avait habilement redressé en utilisant sa manœuvre fondée sur les mathématiques avec des centaines de mètres de marge. Le secret, apparemment, consistait à lâcher le manche à balai. L'avion, affirmait le professeur Lindemann, voulait voler droit et se redresser de lui-même si le pilote le laissait faire. C'était toutes les procédures de correction qui transformaient un décrochage en vrille mortelle. Ensuite, toujours à en croire Lawrence, le professeur était monté dans un biplan plus ancien pour réitérer sa démonstration. Après ça, la RAF avait ordonné à tous ses pilotes d'apprendre la manœuvre du professeur Lindemann. Au dîner, nous étions une douzaine à table, dont les enfants. Diana, âgée de 16 ans, Randolph, qui paraissait en avoir 14, Sarah, 11 ans, ainsi que deux cousins dont j'ai oublié les prénoms, une fille et un garçon de l'âge des aînés. Au cours du repas, Churchill mit le professeur au défi de nous expliquer en monosyllabes et en moins de 5 minutes son ânerie de théorie quantique. Pendant que le chancelier gardait un œil sur sa montre de gousset, le professeur Lindemann s'exécuta en 4 minutes et 20 secondes. Je ne fus pas le dernier à l'applaudir. J'avais même compris son explication. L'autre invité spécial au dîner m'avait pris au dépourvu lorsque je l'avais vu dans le salon acceptant une coupe de champagne. C'était Adolf Hitler. Je m'étais souvenu de ce nom pendant mon mois de convalescence, d'attente en vérité, dans l'espoir de voir réapparaître Reggie et le diacre, avec Passang à la plantation. J'avais alors lu, d'abord à Darjeeling puis sur le bateau pendant les quelques semaines de traversée, tout ce que j'avais pu sur ce Hitler. Et il était là. L'espace d'un instant, je fus saisi d'une terrible indécision, non pas à propos de ce que je devais faire, mais du moyen de le faire, ici et maintenant. Puis je remarquai l'ondulation des cheveux et l'air aimable, le visage légèrement plus long, et m'aperçus que c'était la fausse moustache qu'il retira après avoir amusé les enfants, mais avant le dîner, qui faisait toute la ressemblance. Cet homme que Churchill nous présenta était Charlie Chaplin, né en Angleterre, même s'il vivait désormais aux États-Unis. Voilà donc la raison pour laquelle nous dînions tôt et avec les enfants.
Chaplin avait apporté son dernier film, avec un projecteur de cinéma portatif qu'il passerait après le repas. Mais aussi aimable et souriant que fut Chaplin, il agaça notre hôte avant même que nous ayons fini nos verres et rejoint la vaste salle à manger. Prenant très au sérieux la politique, il n'eut de cesse de savoir pourquoi le chancelier de l'échiquier et le gouvernement Baldwin avaient tant œuvré pour le retour à l'étalon or.
« Ce sera préjudiciable à votre économie, vous savez, » dit-il. « Et les pauvres en seront les premières victimes, puisque tous les prix augmenteront. »
Manifestement, Churchill détestait qu'on lui dise qu'il avait tort, a fortiori dans sa propre maison, de sorte qu'il était d'humeur silencieuse et renfrognée quand nous passâmes à table. Mais Chaplin trouva le moyen de détendre l'atmosphère.
« Puisque je dois rentrer à Londres ce soir et que nous n'aurons sans doute pas le temps de bavarder après le visionnage du film, je vais vous en donner un premier aperçu ici à table, » dit-il.
Il avait apporté une copie de son nouveau long-métrage, « La ruée vers l'or », qui était sorti aux États-Unis en juin, mais n'était pas encore arrivé en Angleterre. Chaplin prit deux fourchettes et les planta dans deux petits pains.
« Mon petit vagabond, » commença l'acteur, « est parti en Alaska chercher de l'or et tente d'impressionner une jeune femme qu'il a rencontrée. Du moins, il rêve qu'il est avec elle et tente de l'impressionner. Et comme il ne peut pas parler, il communique avec elle de cette manière. »
Là-dessus, le Charlie Chaplin sérieux et passionné de politique disparut, et une version adorable et souriante de Charlot, son petit vagabond, apparut, les épaules voûtées au-dessus des fourchettes et des pains, devenus ses jambes et ses pieds. Il leur fit exécuter une petite danse en fredonnant un air, levant les jambes et exécutant le grand écart, pour finir par une révérence et le sourire timide du petit vagabond. Tout le monde applaudit une nouvelle fois. La bonne humeur était revenue. Churchill, qui de nous tous avait ri le plus fort, redevint un hôte accueillant et tout signe d'animosité se dissipa. Il y eut un seul autre instant d'embarras au cours de ce dîner spirituel et charmant. À un moment, Théo Lawrence se pencha vers Chaplin, assis de l'autre côté de la table, au point que les pans de sa coiffe manquèrent de tremper dans le sorbet, et dit « Chaplin, Chaplin, est-ce que c'est juif ? Vous êtes juif, monsieur ?»
Le sourire de Chaplin ne faiblit pas. Il leva son verre de vin blanc vers Lawrence et répondit « Hélas, monsieur Lawrence, je n'ai pas eu cet honneur à la naissance. »
Plus tard, quand les enfants et les invités se ruèrent dans le salon où des chaises et le projecteur avaient été installés, je m'excusais, disant que j'étais fatigué, ce qui était vrai, serrai la main de Chaplin en exprimant l'espoir de le revoir un jour. Avec une chaleureuse poignée de main, il me souhaita la même chose. Puis je montai dans ma chambre et tentai de dormir malgré les éclats de rire qui me parvinrent pendant environ 90 minutes. Je fus réveillé, doucement mais avec insistance, par le dénommé Mason, en plein milieu de la nuit, me sembla-t-il. La montre de mon père m'indiqua qu'il était presque 4 heures du matin.
« Si l'horreur ne vous gêne pas, monsieur, »
murmura Mason, une bougie à la main.
« Monsieur Churchill est dans son bureau, où il vient de finir son travail, et il aimerait s'entretenir avec vous. »
Ça me gênait. Pas seulement l'horaire et cette convocation dans le bureau du grand homme selon son bon plaisir, mais aussi tout le reste. Le dîner et la conversation de la veille ne manquaient pas d'intérêt. Rencontrer Charlie Chaplin était une expérience dont je n'aurais même pas pu rêver, mais aucune mondanité ne pouvait compenser la colère et le désespoir que j'éprouvais encore à la pensée de ce qui s'était passé sur l'Everest et des raisons qui avaient conduit mes amis là-bas. Le cœur lourd, je n'étais pas d'humeur à supporter une discussion spirituelle ou autre réjouissance de ce genre. Je résolus de demander de but en blanc au chancelier de l'échiquier de quel droit il disposait de la vie de gens tels que Percival Bromley, Jean-Claude Clairoux, Richard Davis Deacon ou Lady Bromley-Montfort, de celle de Sherpa extraordinaire ou du jeune Autrichien Kurt Meyer qui, comme j'avais envie de le crier à la face de Théo Lawrence, était juif et plus courageux que n'importe quel dandy anglais déguisé en arabe. J'avais sûrement l'air furieux en rejoignant Churchill dans son bureau. Malgré mon humeur sombre, je dus admettre que ce dernier étage de la maison était impressionnant. Mason me fit entrer par une porte Tudor, une architrave, je l'appris plus tard, puis se retira en silence et en refermant derrière lui. Je regardais autour de moi et vers le haut. La charpente en bois, voûtée et apparente, semblait aussi vieille et solide que l'Angleterre elle-même. De grands tapis usés recouvraient le sol de la vaste pièce, dont le centre était presque vide. Les rayonnages montant jusqu'au plafond débordaient de volume, alors que la bibliothèque du rez-de-chaussée aurait déjà suffi à satisfaire les besoins de lecture d'une ville moyenne du Midwest américain. Quelques fauteuils étaient dispersés çà et là, ainsi que deux bureaux, dont un superbe en acajou sculpté, avec un confortable fauteuil en tapisserie. Churchill se trouvait derrière un pupitre en vieux bois brut sur lequel il écrivait.
« Un bureau d'Israélite, aboya-t-il. Nos prédécesseurs victoriens aimaient travailler debout. »
Il effleura la surface tachée d'encre, presque comme s'il la caressait.
« Ce n'est pas le bureau de Disraeli, bien sûr. Un menuisier du coin me l'a fabriqué. »
Je me sentais ridicule dans ma robe de chambre et mes pantoufles. Mais j'avais tout de suite vu que Churchill était dans la même tenue. Sa robe de chambre en soie ressemblait à une explosion de fils verts, or et rouge écarlate. Ses chaussons trop petits émettaient un bruit, pff, 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 chaque fois qu'il se déplaçait, comme en cet instant, pour nous servir à chacun un verre de whisky bien tassé. Je pris le verre, mais ne bus pas. Churchill me vit lever les yeux une fois encore vers les poutres au plafond et les vieux tableaux sur les murs.
« Nous sommes dans la partie la plus ancienne de Chartwell, » dit-il. « Elle date de 1086, soit 20 ans avant la bataille de Hastings. C'est ici que j'écris. » « Savez-vous que je gagne ma vie en tant qu'écrivain ? D'ouvrages historiques principalement. En général, je dicte à une secrétaire qui doit être habile en sténographie pour suivre le rythme. Ce soir, comme je prépare 2 volumes en même temps, j'ai donné la dictée à 2 jeunes femmes. J'ai aussi 2 employés qui m'aident pour les recherches. Vous avez dû les manquer de peu dans l'escalier. »
Je hochai la tête, mais demeurai silencieux. Nous nous faisions face. Churchill sirotait son whisky. J'ignorais le mien.
Vous êtes en colère, monsieur Perry.
Ses petits yeux vifs remarquaient tout, et il ne cessait de bouger d'un côté à l'autre, comme pour s'assurer que personne ne le soumettait à une surveillance comparable. J'essayais d'imiter le haussement d'épaules désinvolte de J.C. Churchill sourit.
Je ne vous le reproche pas. Mais qu'est-ce qui suscite le plus votre colère, jeune homme? Le caractère sordide des photos que vous m'avez remises hier? Ou le fait que vos amis aient sacrifié leur vie pour mettre la main sur ces horreurs?
Nous nous avançâmes vers 2 fauteuils près du grand bureau d'acajou, dont la surface était dégagée et manifestement inutilisée par l'écrivain dont les livres et les feuillets étaient posés sur le long pupitre d'Israéli. Mais nous restâmes debout. « Je me demande, monsieur Churchill, assenai-je, comment un politicien renégat, incapable de décider à quel parti appartenir, tant qu'il conserve le pouvoir, peut décider que qui que ce soit devrait mourir pour quelque cause que ce soit. » Churchill rejeta la tête en arrière et parut me voir pour la première fois. L'espace d'un instant, on n'entendit plus dans toute la demeure qu'une horloge sonnant 4 heures. Nous ne sciâmes ni l'un ni l'autre pendant cet intervalle. Enfin, le grassouillet chancelier de l'échiquier, dans sa robe de chambre flamboyante, dit
« Saviez-vous, monsieur Perry, que ma mère était américaine ?»«
Non, » répondis-je d'un ton plat, visant à lui signifier que je m'en fichais complètement.
« C'est peut-être la raison pour laquelle je me suis toujours intéressé à la politique américaine autant qu'anglaise, sans parler de ce qui passe pour de la politique sur le continent. » Voudriez-vous connaître la principale différence entre la politique de votre pays et celle du Royaume-Uni, monsieur Perry?
Pas vraiment, pensais-je, mais je demeurais silencieux.
Je ne prétends pas connaître les conseillers du président Coolidge,
dit Churchill, ignorant mon silence.
Au début, il a peut-être gardé certains des proches de Hardings, après la mort subite de votre ancien président en Californie. Mais je vous garantis, monsieur Perry, qu'après son élection l'année dernière où il a battu Davis, ce faible démocrate, et le dénommé La Follette, un progressif assez intéressant, Calvin Coolidge n'est pas seulement devenu président à part entière, mais il s'est aussi entouré d'hommes à lui. Vous comprenez, jeune homme?
Non. Je pensais à J.C., aux prises avec le Sturmbannfuhrer Siegel, à l'oxygène qui sortait des bouteilles perforées de mon ami, quand les 2 hommes étaient tombés par la corniche dans un vide de 3000 mètres.
Je pensais à la dernière fois où j'avais vu le visage de Reggie et du diacre, juste avant qu'ils ne gravissent l'extrémité de l'arête nord-ouest en route vers la pyramide sommitale de l'Everest.
Ce que je veux dire, Jake, vous permettez que je vous appelle Jake?
Une fois encore, je ne répondis pas, me contentant de dévisager froidement le gros homme à la tête de bébé.
Ce que je veux dire, c'est qu'en Angleterre, les choses ne fonctionnent pas de cette façon, Monsieur Perry. Différents partis gagnent les élections et différents premiers ministres se succèdent à Downing Street. Et le noyau de la classe politique, les politiciens, pourrait-on dire, reste au pouvoir pendant des décennies. J'aurai 51 ans en novembre prochain. Et au cours de quelques dizaines d'années de vie publique, j'ai été président de la commission du commerce, secrétaire d'État à l'intérieur, premier lord de l'amirauté, jusqu'au fiasco qu'a été Gallipoli. Puis j'ai combattu un temps dans l'armée sur le front, avant de retrouver les couloirs du pouvoir en tant que ministre des munitions, secrétaire d'État à la guerre, puis secrétaire d'État de l'air et aujourd'hui chancelier de l'échiquier.
J'attendis. Finalement, je bus une gorgée de whisky. Il était fort et onctueux. Il ne fit rien pour calmer mes nerfs ou apaiser ma colère.
Un politicien comme moi se doit d'entretenir un réseau d'amis, et même d'adversaires, poursuivit Churchill, même quand il n'est pas au pouvoir. Et ceux qui ont dirigé des opérations de renseignement dans l'armée, la marine ou au gouvernement, les trois en ce qui me concerne, n'abandonnent pas ce réseau. L'information est synonyme de pouvoir, Monsieur Perry. Et le renseignement, quelle que soit la manière dont il est collecté, peut signifier la vie ou la mort d'une nation ou d'un empire.
Un exposé tout à fait impressionnant, dis-je, tentant de faire ressortir le sarcasme dans chaque mot. Mais je ne vois pas en quoi cela justifie qu'un civil, comme vous, envoie des hommes et des femmes risquer leur vie pour voler des photographies obscènes.
Churchill soupira. J'admets que toute cette affaire, cette opération de renseignement visant à obtenir ces images de Herr Meyer, était sordide, Monsieur Perry. Comme la plupart du travail de renseignement. Mais ce sont parfois les éléments les plus sordides de la vie qui font les armes les plus efficaces en matière de guerre ou de paix.
Je ne pus m'empêcher de lâcher un rire sans joie. Vous ne réussirez pas à me convaincre que quelques clichés de cet Allemand, de ce clown moustachu, pèseront dans la sécurité future de l'Angleterre ou de tout autre pays.
Churchill haussa les épaules. Sur un homme de sa corpulence, vêtu d'une robe de chambre raffinée, le mouvement m'évoqua Oliver Hardy. « Ces photographies pourraient peser très lourd, » dit Churchill. Et sa voix changea. Je sentis qu'il utilisait sa voix d'homme public, sa fichue voix de radio. Il prit le livre qu'il était en train de lire à mon entrée et qu'il avait posé à l'envers sur une table près du grand bureau d'acajou. « J'ai là un exemplaire du livre que Herr Adolf Hitler a écrit en prison, puis qu'il a corrigé pendant que vous étiez dans l'Himalaya, à l'intention d'un lectorat certes réduit, mais fanatique. Il voulait intituler cette monstruosité, c'en est une, croyez-moi, Monsieur Perry, « Wirinhalb Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit », c'est-à-dire quelque chose comme 4 ans et demi de lutte contre les mensonges, la bêtise et la lâcheté. En tant qu'écrivain, Monsieur Perry, j'aurais pu dire à ce Hitler qu'un tel titre ne ferait pas vendre. Par chance, pour lui, son éditeur allemand l'a réduit à Mein Kampf, mon combat.
J'attendis la chute. Manifestement, il n'y en avait pas.
Churchill me tendit le livre. Prenez-le, Monsieur Perry. Lisez-le. Et sentez-vous libre de le garder. Il sera peut-être en vente en Angleterre et aux États-Unis dans quelques années. En Allemagne, dans quelques années, ce sera peut-être même une lecture obligatoire. Vous verrez les projets déments que Herr Hitler et ses nazis ont pour l'Allemagne, pour l'Europe, pour les Juifs et pour le monde.
Je ne parle ni ne lis l'allemand, répondis-je froidement. Je tenais le livre dans ma main libre. Je pris une autre gorgée de whisky. J'avais très envie de lui renvoyer son bouquin à la figure et d'aller faire mon sac pour quitter cette maison de malheur. Et tant pis si je ne trouvais pas de taxi dans la campagne au beau milieu de la nuit. Je marcherais. Mais j'hésitais, le livre de Hitler dans une main et mon verre dans l'autre.
De toute façon, même en tant qu'écrivain, dis-je.
Vous devriez savoir que les livres n'ont aucune importance. C'est la vie des gens qui importe.
Les pantoufles de Churchill émirent leur pfff quand il fit un pas vers moi.
Sachez au moins une chose avant de partir, monsieur Perry. J'ai connu et j'admirais le père de Richard Davis Deacon, et je connaissais Richard lui-même bien avant la guerre. Il comprenait ce que nous faisions. Richard Deacon avait vu le prix de l'agression violente.
Sachez aussi, poursuivit-il sans aucune animosité dans sa voix lente à l'accent presque chantant,
que j'ai connu la jeune Reggie Bromley et que je l'appréciais beaucoup.
Son cousin Percy n'était pas seulement cher à mon cœur, c'était aussi la pièce maîtresse de mon réseau de renseignements naval pendant et après la Grande Guerre. Il a sacrifié beaucoup, à commencer par sa réputation, pour notre nation. Et aujourd'hui, je pleure, au sens littéral du terme, monsieur, de ne pouvoir louer ouvertement sa bravoure et son sacrifice. Mais telles sont les règles des services de renseignement, monsieur Perry.
Je posai mon verre vide sur le sous-main de cuir du bureau d'acajou, qui avait appartenu au père de Churchill, comme je l'appris des années plus tard, mais pas le gros livre qu'il m'avait donné. D'un côté, j'avais envie de laisser éclater ma rage contre ce petit homme rondouillet, de le blesser avec des mots comme les souvenirs de mes amis me blessaient le cœur. Mais d'un autre côté, je voulais partir d'ici et réfléchir à ce que Churchill venait de me dire. Pour le rejeter à la fin, j'en étais sûr, mais après y avoir réfléchi.
Voulez-vous nous quitter ce matin, quand il fera jour évidemment et que les trains recommenceront à circuler, ou rester à Chartwell pour le week-end, afin que nous ayons encore le loisir de parler?
Je pars, dis-je. Mes affaires seront prêtes à 8 heures.
Votre petit déjeuner sera servi à 7 heures, et mon chauffeur vous déposera à la gare quand vous le souhaiterez. Je crains de ne pas vous voir avant votre départ, puisque je me réveille tard et que je m'acquitte d'une bonne partie de mon travail quotidien dans mon lit avant de me lever.
Comptez-vous rester à Londres encore longtemps, monsieur Perry?
Non, je quitte Londres et l'Angleterre dès que possible.
Vous retournez dans les Alpes, peut-être?
Demanda-t-il avec son sourire de bébé aux joues roses. Non, chez moi, en Amérique, loin de l'Europe.
Je vous souhaite un bon voyage alors, et je vous remercie pour les choses extraordinaires que vous avez accomplies, et pour tout ce que vous avez sacrifié,
en même temps que nos chers amis communs, dit Churchill. Puis il me tendit la main. J'hésitais quelques brèves secondes avant de la serrer. Il avait une poigne étonnamment ferme et même calleuse, peut-être à force de poser des briques, de creuser des étangs et d'ériger des barrages. Plus tard dans la matinée, tandis que la voiture descendait presque en silence la longue allée qui m'éloignait de Chartwell, dépassant les vieux chênes et les ormes, les lauriers et les rhododendrons taillés, puis les derniers bosquets de conifères près du portail d'entrée, qui tous étincelaient de rosée dans la lumière matinale, je résistais à l'impulsion de me tourner pour regarder derrière moi.